La matinale estivale sur RCN, Hélène Ingré.
Bonjour auditrices et auditeurs de cette matinale intitulée SLPA et recettes, car la SLPA donc nous propose sa kermesse le dimanche 31 août de midi à 18h et sa présidente nous en parlera davantage en première partie d'émission. Et recettes, car nous avons fait quelques sélections de recettes que nous vous avions proposées au fil de cet été 2025. Bonjour Madame Annie Cinco, donc présidente de la SLPA. Et j'insiste lourdement sur le L parce que vous allez pouvoir nous dire ce que signifie justement la SLPA et pourquoi j'ai insisté sur le L.
La SLPA, c'est la Société Lorraine de protection des animaux. On insiste fortement sur le L de Lorraine parce que en fait, il existe en France une SPA. Et donc c'est une SPA nationale qui se trouve à Paris et il ne faut pas confondre avec nous qui sommes un refuge tout à fait indépendant et nous ne vivons que grâce aux dons et aux legs et nous n'avons pas de subvention par rapport à la SPA. Voilà, c'est pour ça que c'est important de savoir qu'à Nancy, il y a deux refuges totalement indépendants qui n'ont pas de subvention et qui ont besoin des dons, voilà.
Oui, parce que bah, moi, je me suis fait avoir tout au début, hein, avant de savoir. C'est pour ça que ensuite, systématiquement, on commence par préciser cette différence entre SPA et SLPA, parce que tout simplement, longtemps, et je pense que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs pensent de même, on pense que la SPA, c'est une fédération. Alors certes, parce qu'il y a des parutions et puis on parle de Paris et tout ça. Et si on envoie un chèque ou une demande d'abonnement, enfin bref, peu importe, on s'adresse à Paris. En fait, ce n'est pas une fédération, c'est-à-dire, je dis ça à la louche, vous me corrigerez, mais sur les 250 refuges en France, seule une cinquantaine sont rattachés à Paris et les autres sont comme ceux dont vous venez de citer le nom, à savoir en Meurthe-et-Moselle, à Mans et Velaine, eh bien, sont autonomes en quelque sorte. Et si on envoie une somme d'argent pensant qu'il y aura une partie qui reviendra dans le refuge de notre secteur, eh bien, ce n'est pas le cas. Cet argent, il servira pour des animaux, mais uniquement sur Paris et sur les quelques dizaines de refuges affiliés à Paris. J'ai pas faux, c'est ainsi qu'on peut comprendre la chose.
Tout à fait, c'est vraiment tout à fait ça. La SPA Paris, a été une des premières à lancer ce slogan. Les autres refuges ont plus ou moins repris un petit peu Société Protectrice des Animaux. Mais c'est devenu, en fait, la SPA Paris a beaucoup de moyens. Tant mieux, hein, c'est très bien parce qu'ils sauvent également des vies au niveau des animaux, mais ils font beaucoup de publicité aussi bien à la télé que sur les réseaux sociaux et en fait on a tendance à confondre et on se dit tiens je vais faire un don à la SPA et malheureusement si vous faites un don à la SPA eh bien ça ne va pas chez nous. Voilà.
Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a des magnifiques petites plaquettes, notamment pour des personnes qui voudraient donner le bénéfice d'une assurance, faire un leg et tout ça. Et c'est toujours l'adresse de Paris qui apparaît parce qu'effectivement, ils inondent tous les cabinets vétérinaires, etc., ou les mairies. Voilà. Et puis, comme c'est une cause publique, on se dit, voilà.
Bien sûr. Bien sûr.
Donc, et c'est vrai que ça. Et puis, c'est sûr qu'il ne lève pas l'ambiguïté. Et pour cause, parce que beaucoup de personnes, croyant bien faire, quand vous avez eu. Quand il y a, par exemple, certaines grosses difficultés, qu'il y a des annonces dans la presse locale, eh bien, si la personne a l'adresse de Paris, l'envoie à Paris, et puis vous n'en verrez jamais la couleur. Et voilà. Donc, c'est bon à savoir que ce n'est pas une fédération. Hein, ce n'est pas une fédération.
Exactement, c'est un refuge totalement indépendant, enfin deux refuges, une association qui a deux refuges mais qui sont totalement indépendants et qui ne vivent que sur, comme je vous l'ai dit, les legs et les dons des donateurs.
Nous venons d'entendre la première partie d'un entretien que nous avions fait en 2023, dans une précédente matinale, en juillet 2023, et justement, cela
montrait l'importance de soutenir ces SPA locales. Hein. Bon, ça c'est pour nos auditrices et auditeurs qui seraient juste de passage dans le Grand Est. Quel que soit l'endroit où vous êtes, soutenez et vos sociétés animales de protection animale, donc locales, puisque si c'est sous l'intitulé, si vous faites un chèque à la SPA, ça arrivera à Paris. Et donc, seul un refuge sur cinq en France est rattaché à l'SPA de Paris. Et donc, les autres, eh bien, ils n'ont plus qu'à se brosser. Donc, en ce qui nous concerne, eh bien, on soutient la SLPA, Société Lorraine de Protection Animale. Alors, bien sûr, on peut les soutenir avec de l'argent, si on en a de disponible. Et puis, si on paye des impôts, eh bien aussi, ça permet, si vous donnez 30 euros, eh bien, vous aurez une réduction de 20 euros de vos impôts. Hein. C'est comme si vous ne donniez que 10 euros. Donc, c'est aussi bon à savoir. Mais aussi, il y a d'autres possibilités de les soutenir sur un plan matériel, déjà. On est en été encore. Vous avez peut-être commencé à faire du rangement dans vos armoires en prévision de l'automne et de l'hiver. Et puis, pour ménager un peu de place, eh bien, pourquoi pas aussi apporter un certain nombre de choses à l'occasion de cette kermesse du 31 août à Amance, qui aura lieu à partir de midi jusqu'à 18h, où ils nous proposent différentes animations au fil de cet après-midi, avec des stands, avec aussi des présentations de chiens, avec la visite de ce refuge d'Amance. Et lors de cet entretien de l'été 2023, eh bien, nous y avions posé comme question, justement, à la présidente, eh bien, de quoi avait-il besoin ? Et elle nous répondait cela, avec aussi d'autres informations concernant différentes prestations. Au niveau des tarifs et des chiffres, il peut y avoir quelques aménagements, puisqu'entre-temps, il y a eu un an qui s'est déroulé. Mais l'esprit est toujours largement valable. Tout d'abord, eh bien, si vous faites du rangement, voilà ce dont ils ont besoin.
On est toujours, bien sûr, demandeur de draps, de serviettes, de couvertures. Alors, on ne prend pas les couettes parce que les chiens les détruisent. Et quelquefois, il y a de la mousse dedans, donc ils pourraient s'étouffer et la manger. Et effectivement, on prend aussi du petit linge, tel que des pulls, des choses comme ça. Alors, pas de sous-vêtements, pas de chaussettes, pas de gants de toilette. C'est vraiment du linge qu'on va pouvoir mettre dans les boxes tous les jours, pour nos chats et pour nos chiens. On est également preneurs de litière. Bien sûr, on est des gros consommateurs de litière, puisque toutes les litières sont changées tous les jours pour que nos animaux ne soient pas dans une litière sale pour faire leurs besoins. Et donc, également pour les nacs, on a besoin, donc les nacs, je précise, les nouveaux animaux de compagnie, tels que les lapins, les cochons d'Inde, les hamsters, du foin, des granulés et des aliments.
Et justement, pour des personnes qui voudraient participer notamment à la prise en charge des animaux, alors qu'on s'entende bien, c'est, même si quelqu'un dit « Oh, mais moi j'ai peur des chiens, mais je voudrais participer », il y a d'autres façons de participer. Par exemple, on peut aider à nettoyer les box, à convoyer, par exemple, si soi-même on a une voiture mais qu'on ne peut plus trop marcher, mais qu'il y a des promeneurs qui ont besoin d'être convoyés pour aller faire les promenades. Il y a des tas de possibilités d'apporter son concours, y compris faire des écritures, tenir les permis. Enfin, il y a plein de possibilités. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dresser quelques-unes ?
Bien sûr. Alors, effectivement, on est toujours en demande d'aide le matin pour faire le nettoyage des boxes, principalement pour les chats. Puisque pour les chiens, il faut que les animaliers, ils ont l'habitude de connaître les chiens. C'est quand même plus compliqué le matin pour les chiens. Mais les chiens, on reste sur la promenade l'après-midi et le matin pour nettoyer les boxes des chats. Donc, on a besoin de bénévoles réguliers qui viennent, qui savent s'impliquer assez régulièrement. C'est vraiment essentiel parce qu'il y a quand même quelques petites choses à connaître. Donc, si vous venez une fois puis que vous revenez plus, c'est dommage, parce qu'il y a quand même une petite formation qu'on va vous faire. Effectivement, comme vous dites, faire du covoiturage, c'est toujours intéressant. Et on a aussi besoin de bénévoles pour faire des collectes. Nous avons des bénévoles qui organisent des collectes dans les supermarchés régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est quasiment tous les mois. Et ils ont besoin d'aide pour aller distribuer des tracts à l'entrée du supermarché toute la journée, pendant tout le week-end, pour expliquer aux gens qui rentrent dans le magasin de quoi nous avons besoin. Ça, on est vraiment toujours en demande parce que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'implication.
Alors, au niveau justement de ces fameuses promenades qui ont lieu les après-midi, donc sur chacun de vos sites, mais peut-être qu'il y a plus de besoins à Amance qu'à Velaines, vous allez nous le préciser. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour des personnes qui se disent, bah, tiens, ça serait l'occasion de faire, en même temps, d'une pierre deux coups, moi je me promène, en même temps, je sors un ou deux chiens, comment ça se passe pour des personnes qui ne seraient jamais venues à vos refuges pour ce type de prestations?
Alors, on a besoin de promeneurs que ce soit à Velaines ou à Amant. Ça, au niveau des deux refuges, on est vraiment demandeurs. Pour promener un chien, il suffit d'être adhérent. Donc, vous avez une cotisation annuelle à payer qui est de 20 euros. C'est pour des raisons d'assurance. Nous, on vous enregistre dans nos fichiers. Comme ça, vous êtes assuré en cas d'accident. Et la première fois que vous venez promener, on vous forme. Soit vous partez en binôme avec un promeneur qui est aguerri, confirmé, ou on va vous expliquer les règles de sécurité, comment sortir l'animal. Et après, c'est tous les après-midi de 14 à 18 heures. Vous arrivez, vous regardez le nom des chiens qui sont à sortir. En fonction de votre profil et de vos capacités, bien sûr, on vous confie des chiens qui sont plus ou moins compliqués à promener, plus ou moins faciles à promener. On ne va pas, si vous êtes toute menue, vous donner un chien qui fait 50 kilos et qui tire. On va plutôt privilégier des chiens plus petits, plus dociles, plus faciles à promener. On s'adapte vraiment en fonction du promeneur et de son profil.
Alors, qu'on soit bien clair, hein, les chiens vivant notamment dans un monde olfactif, il ne faut pas penser que vous allez faire 20 kilomètres. Hein. En général, c'est quelques kilomètres au mieux. Hein. Et il ne faut pas que ce soit non plus à l'heure quasiment... Quand la nourriture arrive, ils sont souvent pressés de rentrer pour pouvoir manger.
Voilà. Et les promenades, nous, ce qu'on préconise, c'est 20 minutes de promenade. Déjà pour que le chien ne soit pas fatigué. Et deuxièmement, si on a des potentiels adoptants qui viennent pour voir tel ou tel chien, si un chien est parti pendant 2-3 heures, eh bien c'est dommage si entre-temps quelqu'un vient et qu'il est parti en promenade aussi longtemps. Donc effectivement, les promenades, c'est environ 20 minutes.
Alors justement, vous avez prononcé ce terme d'adoptant. Est-ce que vous pouvez nous signaler deux choses? Donc par rapport aux personnes qui souhaiteraient adopter un animal, et puis également une prestation qui est méconnue parfois, qui sont les familles d'accueil, des personnes qui se disent « Ah, moi j'aime bien les chiens, enfin les chiens ou les chats ou un autre animal, mais je ne me vois pas partir pour, je dirais, pour 10 ans, parce que c'est, si on le prend 2-3 ans, c'est un peu l'espérance de vie, ou même plus ou moins. Mais en revanche, je veux bien accueillir un chien pendant un certain temps. Est-ce que vous pouvez nous parler tout d'abord des adoptants, enfin, de ce qui est requis pour adopter, puis également peut-être de cette idée de famille d'accueil?
Alors, pour les adoptants, que ce soit pour les chiens ou les chats, il y a une nouvelle loi qui est passée depuis maintenant plus de 6 mois. Quand vous allez vous présenter au refuge et que vous avez eu un coup de cœur pour tel ou tel animal, ou que vous n'avez pas encore fait votre choix mais que vous souhaitez adopter, on va vous faire signer un papier d'engagement. C'est ce document, ce qu'on appelle le papier des 7 jours, où on va vous donner tous les besoins de l'animal et tout ce que vous allez devoir mettre en œuvre tout au long de la vie de l'animal. C'est un document que vous allez repartir avec. Et vous allez pouvoir vous en imprégner pendant 7 jours, ce document de réflexion. Vous savez, en ayant signé ce document, en quoi vous vous engagez, c'est-à-dire au niveau financier, au niveau relationnel avec le chien, tout ce que vous allez devoir faire, quels sont vos devoirs, en fait, envers l'animal que vous allez adopter. Une fois que vous avez fait votre choix qui est mûrement réfléchi, puisque vous avez eu vraiment 7 jours pour réfléchir à ce que vous allez faire, à cet acte d'engagement qui est vraiment fort, l'adoption, parce que vous ne l'adoptez pas pour une saison, ni pour un été, ni pour un hiver.
Ni pour un Covid.
ni pour un Covid. Ça va être vraiment pour la vie entière de l'animal. Et donc, si c'est pour un chat, on va vous demander si vous habitez en maison ou en appartement, on a des chats où on sait qu'ils vont devoir sortir parce que ça a besoin, parce qu'ils ont déjà été dans une vie passée, habitués à aller dehors, à rentrer. Donc si vous êtes en appartement, ben, ce chat-là, on ne va pas vous le conseiller si c'est un chat d'appartement. Concernant les chiens, ben, c'est pareil, on va vraiment regarder quelle est la façon dont vous vivez, là où vous vivez, en fonction de la race de l'animal. Certains chiens ont besoin d'être en maison plutôt qu'en appartement. Voilà, donc tout ça, ce sont des critères qu'on va prendre en compte. Et même dans certaines circonstances, nos animaliers vont aller faire une pré-enquête chez les futurs adoptants pour voir les conditions de vie du futur animal, si ça correspond bien aux besoins physiologiques et physiques de l'animal.
Alors, par rapport aux familles... Oui, pardon. Avant de parler des familles d'accueil, je trouve que cette loi est vraiment essentielle. C'est vraiment, on va dire, c'est le marchepied, non ? Parce qu'il y a des pays, je pense à la Suisse, où il y a bien sûr cela, mais avant de prendre un animal, notamment lorsque c'est la première fois qu'on a un animal, on doit faire une petite formation théorique pour connaître les codes, par exemple, si c'est le chien, les codes canins, avec une formation théorique, alors, pratique, basique, de quelques cours d'éducation. Voilà, on y viendra, mais ça limitera déjà, ça limitera les abandons, quoi. C'est pas des achats coup de cœur, entre guillemets, c'est pas des adoptions coup de cœur avec ce délai de 7 jours.
Non. Et en plus, concernant certains chiens, en fonction de leur caractère, il y a même quelquefois où les adoptants vont devoir, avant d'adopter l'animal, venir à nos séances d'éducation qui ont lieu tous les samedis avec une éducatrice pour voir comment le chien va se comporter avec le maître et comment le maître va se comporter. Donc ça, c'est sur des chiens qui sont un peu plus compliqués, bien sûr. Hein. Ce n'est pas sur tous les chiens qu'on préconise ce type de choses.
Ah non, mais ça, c'est intéressant. C'est parce que vous proposez donc pour des séances hebdomadaires d'éducation en amont de l'adoption, potentiellement.
Exactement. Il y a des personnes qui sont venues 4, 5, 6 fois avant d'être sûres de pouvoir prendre l'animal, aussi bien pour elles, aussi bien pour nous, si on a un doute, en disant bah, finalement, on se rend compte que là, vraiment, la personne a du mal à le maîtriser, ou elle en a peur, ou alors elle ne se comporte pas comme elle devrait le faire. Donc, il y a vraiment des corrections à faire et c'est vraiment essentiel pour que l'animal parte dans les meilleures conditions et surtout ne revienne pas, finisse enfin sa vie dans une famille qui va lui être définitive. C'est vraiment le plus important pour nous.
Tout à fait. Non, c'est vraiment une excellente initiative. Et donc, par rapport aux familles d'accueil ?
Par rapport aux familles d'accueil, alors pour les chiens, on fait appel aux familles d'accueil souvent quand c'est vraiment exceptionnel. Nous n'en avons pas beaucoup, mais quand on demande une famille d'accueil, ça va être un chien qui va être en fin de vie. On sait que de toute façon, au niveau soins, on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire. Par contre, l'animal, pour ne pas qu'il finisse en fait sa vie enfermée au chenil derrière les barreaux, eh bien, on fait appel aux familles d'accueil qui savent à l'avance que le chien, ils ne vont pas l'avoir pour très longtemps, mais qui vont l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie dans les meilleures conditions pour que le chien parte tranquille et apaisé.
Alors,
souvent ce cas-là dans les familles d'accueil.
Et alors justement, vous avez prononcé ce terme de par exemple de vieux chien. Hein, donc, au niveau justement des tarifs, un ordre de grandeur hein, par ailleurs, au niveau des tarifs d'adoption, que ce soit pour les chiens, les chats et puis pourquoi pas les nacs, mais enfin on va faire un peu général, chien, chat, parce que c'est surtout ce type d'animaux que vous avez. Et puis dans ce tarif, est-ce qu'il y a la stérilisation qui est comprise ou pas? Et sinon qui est préconisé et surtout pour des personnes qui voudraient adopter des vieux chiens, sachant qu'effectivement ben, c'est comme pour les voitures et les humains, à savoir que ben, c'est dans la dernière partie de notre vie que ça nous coûte le plus cher. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues à ce niveau-là?
Exactement. Alors pour les tarifs, pour les chats, c'est 150 €, que ce soit chat adulte ou chaton. Donc si c'est un chaton, bien entendu, dans les 150 € sont compris la stérilisation, l'identification par puce et la primo-vaccination. Pour les chats adultes, eh bien, ils sont déjà stérilisés, Donc, vaccinés, identifiés. Donc, tout est compris dans ce tarif d'adoption. Pour les chiens, c'est 300 euros. Et pour justement les chiens qui ont plus de 10 ans, nos papis et nos mamies, nous avons un partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis qui va vous donner en fait une aide, qui va vous proposer une aide en soins vétérinaires jusqu'à 600 euros si vous avez besoin effectivement par la suite de, comme vous le dites, hein, plus on vieillit, plus on a besoin de soins. Donc, un accompagnement de la Fondation de 30 millions d'amis de 600 euros pour votre chien, pour vous accompagner dans ses soins.
Alors, il y a un aspect que j'aimerais que vous puissiez nous préciser avant de nous quitter. C'est, d'une part, vous êtes un refuge. Donc, vous accueillez, entre guillemets, je dirais, des abandons. Vous allez nous en parler, quelle est à ce oui. niveau-là votre politique. Mais surtout, si on trouve un animal, vous n'êtes pas une fourrière, en fait.
Tout à fait. On n'est pas habilité, en fait, la loi, hein, elle est comme ça. Nous, on ne peut pas, si vous voulez, recueillir un animal qui est trouvé. On accepte un animal qui est abandonné. Donc, vous êtes Madame X, vous avez un chat, donc vous venez nous l'abandonner. Nous, on déclare donc que Madame X a abandonné son chat, sans jugement de valeur de notre part. Par contre, un chat qui est trouvé, ça doit passer impérativement par votre mairie. Si vous trouvez un animal, vous appelez votre mairie, qui va automatiquement, elle doit le faire, hein, c'est obligatoire, hein, c'est dans les préconisations. Chaque maire est responsable des animaux errants sur sa commune. Donc la mairie va contacter la fourrière, qui va dépêcher quelqu'un et qui va venir récupérer l'animal. Une fois l'animal arrivé en fourrière, celle-ci, pendant 15 jours, va s'organiser pour retrouver le propriétaire de l'animal. Donc, si au bout de 15 jours, aucun propriétaire n'a été retrouvé, nous, on va récupérer cet animal-là. Aucun animal n'est euthanasié quand il passe à la fourrière.
Oui, voilà.
Sauf s'il a la rage, hein, bien sûr, cas très exceptionnel, puisque la rage, on ne l'a plus sur notre territoire. Mais c'était vraiment la parenthèse.
Alors, en fait, de rage, ça me fait juste une petite transition avec les vaccins et puis avec la stérilisation. Parce qu'en fait, actuellement, vous avez un ordre de grandeur. Combien d'animaux à Amance et à Velaine?
Alors, à Amance, actuellement, il y a environ une soixantaine de chiens. Ça varie suivant si les chiens qui partent à l'adoption, les chiens qui reviennent. Au niveau des chats, il y a à peu près une soixantaine de chats également. Et plus un parc de chats libres où ils sont 80. Donc c'est des chats qui sont là depuis très longtemps. C'est des chats qui ont été habitués à être libres. À l'époque où on nous déposait les chats dans la cour, donc voilà, ils sont parqués dans un grand parc ombragé, enfin... est vraiment très beau et puis ils mènent leur vie.
Ils mènent leur vie, quand on arrive d'ailleurs on les voit folâtrer.
Voilà, tout à fait. Et on a un groupe de bénévoles qui a à cœur de leur aménager vraiment des parcours, des petites niches, enfin c'est vraiment super. Et à Velaine, écoutez, on a actuellement 24 chiens et une soixantaine de chats également.
Oui, donc et puis toutes ces bêtes sont des pépites potentielles, parce qu'il faut prendre le temps un peu
fait.
Au départ de la prise de contact réciproque.
Hein. Oui.
Je pense que vous avez aussi une politique d'incitation à la stérilisation, que ce soit pour les chats ou les chiens.
Ah complètement. De toute façon, aucun animal ne sort de chez nous sans avoir été stérilisé. Sauf pour les chatons et les chiots. Forcément, un chaton, vous venez l'adopter, il a 2 mois, il ne sera pas stérilisé. Par contre, on va vous demander un chèque de caution et vous vous engagez à le faire stériliser dès qu'il a 6 mois. Bien sûr, on vous remet un bon de stérilisation puisque c'est compris dans le tarif d'adoption. Et donc, vous vous engagez à faire stériliser le chiot ou le chaton dans un délai dans l'âge de 6 mois. Et nous, on vous relance, mais c'est pour ça qu'on vous demande un chèque de caution au cas où la personne disparaisse dans la nature et ne le fasse pas. Nous, on retire le chèque de caution, mais ça n'arrive jamais, en fait.
Oui,
les
non.
personnes sont vraiment elles sont très au fait que c'est important de faire stériliser votre animal, puisque de toute façon, on en est, voilà, déjà pour sa santé, vous allez le protéger contre multiples maladies et en fait pour éviter la prolifération.
Alors avant de nous quitter, pour ceux qui seraient venus il y a fort longtemps, notamment au refuge d'Amance, je pense que ces dernières années, il y a eu quelques changements. Alors tout d'abord déjà pour les habitants d'Amance, mais à savoir les habitants à quatre pattes, enfin notamment à quatre pattes oui. pour les chiens et les chats, et puis aussi oui. pour les humains qui œuvrent pour eux, hein, parce que aussi c'était largement nécessaire, mais ça coûtait quand même très cher.
Oui, 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 c'est vrai que les travaux entrepris au refuge d'Amance sont vraiment colossaux, surtout que on a eu vraiment une personne, une entreprise qui est partie en déposant le bilan et en emportant, disons, une grande partie de l'argent sans avoir fait les travaux. Donc, mais quand même, il y a eu des travaux de rénovation qui ont été faits vraiment très importants, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, et on continue à en faire et on va continuer à améliorer vraiment pour que voilà, les animaux soient vraiment dans un environnement beaucoup plus confortable et serein, et pour le personnel et pour les bénévoles qui viennent, c'est quand même plus agréable quand vous avez l'eau courante, les sanitaires, des pièces qui sont propres, voilà, c'est vraiment super important, mais je vous confirme que c'est colossal au niveau budget et que pour l'instant, c'est pas gagné. Pour que ce soit entièrement fini, c'est pas gagné.
Oui, et quand vous dites l'eau courante, effectivement, c'est des choses basiques où il fallait faire ses travaux, la rénovation oui. électrique. Enfin, c'est un lieu, un cadre qui est vraiment idyllique pour les animaux. Hein. La preuve, c'est qu'il y, oui. y a 80 chats qui ont trouvé leur bonheur là, parce que c'est
Exactement.
Dans la nature, c'est facile. Exactement. D'accès, mais j'expliquerai après notre entretien, parce que c'est vrai oui. qu'il y a 1 ou 2 kilomètres avant la route nationale, donc oui. à côté de chez vous, c'est vraiment un joli cadre, mais oui. c'était l'envers de la médaille, c'est une ancienne ferme qui était, quand vous l'avez prise, dans son jus, comme on dit, et il y avait tout à refaire, quoi, il y avait tout à faire.
Oui, 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 tout à faire.
Merci encore à vous.
C'est moi qui vous remercie. Et merci vraiment à tous ceux qui nous soutiennent.
Merci encore.
C'est au fond de mon jardin que j'ai enterré mon chien. J'y ai mis une jolie pierre. Papa a dit une prière. Si seulement d'un coup de baguette je pouvais le faire renaître. Maman dit qu'il y a une étoile de plus maintenant dans le ciel. Pourquoi j'ai mal au cœur? Comment ça se fait qu'on meurt? Pourquoi on disparaît? Est-ce qu'on revient jamais? Pourquoi j'ai mal au cœur? Comment ça se fait qu'on meurt? Pourquoi on disparaît? Est-ce qu'on revient? Pour calmer un peu ma peine, papa a planté une graine. Quelques jours, une fleur amènera quelques couleurs. Sur ses pétales rose parme, je déposerai une larme. Il est tout gros, mon chagrin, tout gros comme l'était mon chien. Pourquoi j'ai mal au cœur? Comment ça se fait qu'on meurt? Est-ce que c'est comme dormir? Est-ce que tu peux me dire? Pourquoi j'ai mal au cœur? Comment ça se fait qu'on meurt? Est-ce que c'est comme dormir? Est-ce que tu peux me dire? Thank you. qu'avec le temps, ma peine s'en ira doucement. Mais je garde sur mon chevet sa photo et son collier. Elle dit que ça fait partie des choses tristes de la vie. Et qu'on soit petit ou grand, on ne l'explique pas vraiment.
Matinale estivale sur RCN.
Et nous venons d'entendre donc Alex Toucourt et Robert Dam qui justement intitulaient dans son conte musical Tu peux toujours rêver ce morceau On ne l'explique pas vraiment. En complément de son intervention, bien je vous donne les adresses de ces deux refuges, donc qui sont ouverts tous les jours de l'année de 14h à 18h en été. En hiver, c'est de 13h à 17h. Alors, le refuge d'Amance, c'est Ferme Fouras, 54 770 à Amance. Le téléphone est le 03 83 31 16 73, 03 83 31 16 73. Vous avez une adresse email, c'est donc slpa, tout est attaché, hein, amance, A-N-C-E, @hotmail.fr. Et c'est marqué, sauf le jeudi où c'est fermé, quand c'est ouvert le restant, donc de 14h à 17h, notamment en hiver. Sinon, le refuge de Velaine en Haye, c'est parc de Haye, allée des Cournoyers, 54 840, bois de Haye, téléphone 03 83 23 33 34. 03 83 23 33 34. L'email, c'est contact@spa-lorraine.com. contact@spa-lorraine.com et sinon un site www.spa-lorraine.com spa-lorraine.com et bien sûr également sur Facebook vous pouvez les retrouver.
La matinale estivale sur RCN.
Matinale estivale intitulée SLPA et recette, car la SLPA fait sa kermesse le 31 août de midi à 18h au refuge d'Amance et recette de cuisine, puisque c'est une petite compilation des recettes que nous vous avons proposées dans ces matinales.
RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet.
Alors, l'omelette est a priori l'un des plats les plus simples à réaliser. Mais pour préparer la véritable omelette à la française, très moelleuse, les conseils d'un chef ne sont pas de trop. On dit d'un très mauvais cuisinier qu'il ne sait même pas cuire un œuf. Les recettes à base de ce mets sont en effet souvent rapides et faciles à faire. A priori, tout le monde est capable de préparer une omelette puisqu'il suffit, de cuire des œufs battus dans une poêle. Mais souvent, plus une recette est simple, plus il est difficile de la sublimer. L'omelette à la française réalisée dans les règles de l'art, moelleuse, aérienne et à peine dorée à l'extérieur, est un savoir-faire que le monde entier nous envie. Alors je vais vous donner moi les secrets de l'omelette à la française. Une bonne omelette commencera bien sûr par des œufs de qualité. prenez le temps de bien les battre afin que les jaunes et les blancs soient parfaitement mélangés. N'assaisonnez pas. Vous devez n'assaisonner qu'avec du sel. L'omelette à la française ne contient pas de poivre. Choisissez ensuite une poêle adaptée. Elle doit être anti-adhésive, mais surtout de la bonne taille. Une poêle trop large ne permettra pas d'obtenir une épaisseur nécessaire à votre omelette, et votre omelette ça risque d'être un peu trop cuite. Pour 3 œufs, vous utiliserez une poêle d'environ une vingtaine de centimètres de diamètre. L'autre secret, bien qu'assez connu s'agissant de la cuisine française, c'est le beurre. Il ne sert pas ici uniquement à empêcher l'œuf d'accrocher à la poêle. Il doit aussi se mêler à l'œuf. On en fera donc fondre une belle quantité jusqu'à ce qu'il mousse. La cuisson pour une omelette moelleuse et aérienne, c'est extrêmement simple. L'omelette à la française ne se laisse pas cuire doucement. Il faut aller vite à haute température. On ne cherche pas cependant à griller l'omelette, ni le crépitement caractéristique d'un liquide versé sur une surface brûlante. N'hésitez donc pas à retirer la poêle du feu quelques secondes avant de verser les œufs battus. Remettez ensuite immédiatement le feu. La règle la plus importante est que les œufs, ne doivent pas rester statiques. Mélangez donc énergiquement avec un ustensile adapté pour ne pas rayer la poêle, c'est-à-dire une spatule en bois, une cuillère en silicone, tout en remuant la poêle de l'autre main. Poursuivez jusqu'à ce que les œufs soient crémeux. Cessez alors de remuer et laissez cuire seulement quelques instants de plus. Il faut que ces œufs soient cuits à 80%. Pour une belle présentation et conserver une texture très aérienne, l'omelette à la française se plie, elle ne se roule pas. Donc inclinez votre poêle vers l'avant et décollez progressivement l'omelette par petits mouvements de spatule rapide. Pliez-la ensuite en deux tout en la menant vers le bord de votre poêle. Tapez ensuite du poing sur le manche de la poêle pour achever de la décoller. Rabattez l'extrémité et renversez l'omelette sur l'assiette. C'est prêt, vous allez pouvoir la manger. Maintenant, on va passer à l'autre côté de l'autre omelette, à l'omelette à ratable. Alors les astuces pour quelle est la texture parfaite, c'est exactement ça qu'il faut. Dès que l'on n'a plus d'idées pour le dîner ou qu'on est pressé par le temps, l'omelette s'impose à nous comme une évidence. Il n'y a pas plus simple que recette et pourtant elle demande un certain savoir-faire si on veut la réussir comme dans les palaces. Rares sont les fois où on entend des soupirs lorsqu'on sert une omelette au dîner. La plupart du temps, les mines se réjouissent d'avoir ce plat au menu. Il n'y a rien de plus simple qu'une omelette et petit et grand raffolent. C'est probablement pour son côté généreux et réconfortant qui nous rappelle des souvenirs d'enfance qu'on l'aime tant. Ou alors, c'est peut-être pour sa simplicité d'exécution. En effet, il n'y a rien de compliqué dans cette préparation. C'est d'ailleurs l'une des premières recettes que l'on apprend lorsqu'on met les pieds dans une cuisine pour la première fois. Il suffit de battre des œufs, ajouter quelques condiments et d'autres ingrédients pour la gourmandise. Un petit aller-retour à la poêle et le tour est joué. Alors sur le papier, cela semble inratable. Toutefois, il se peut que notre omelette ne ressemble pas à celle que l'on commande au restaurant. De temps en temps, il arrive qu'elle soit trop cuite et donc sa texture caoutchouteuse nous gâche le plaisir. D'autres fois, qu'elle soit sèche ou pire, qu'elle accroche au fond de la poêle. En bref, il peut nous arriver bien des mésaventures avec une omelette si on ne s'y prend pas de la bonne manière. Afin de mettre fin à ces désagréments, la solution est d'opter pour une recette inratable. Alors comment faire une bonne omelette ? Vous n'avez par exemple que 15 minutes devant vous pour déjeuner. C'est peu. Vous ne pourrez pas faire des miracles. Mais en revanche, c'est juste assez pour préparer une bonne omelette. Rien de révolutionnaire certes, mais quand elle est bien faite, elle nous procure une grande satisfaction. Oui, mais voilà, il y a des jours où l'on ne sait pour quelle raison notre omelette n'est pas aussi savoureuse qu'à l'accoutumée. En revanche, si vous suivez la recette, tout cela sera de l'histoire ancienne. Dans une vidéo publiée il y a quelques jours sur des réseaux sociaux, l'ancien candidat de Top Chef partage sa manière de réaliser ce grand classique et surtout ses petites astuces pour la réussir à tout coup. Attention, vous allez être bluffé. La liste des ingrédients pour une personne. Il vous faut 4 œufs, 100 g de lait, du sel et du poivre et du piment d'Espelette. Ensuite, suivons les étapes de la recette. Vous allez commencer par casser les œufs dans un saladier ou un cul de poule. Pour éviter de la perte en cas d'un œuf avarié, et ça arrive, cassez vos œufs un par un dans un bol ou un ramequin. Et s'il est bon, vous le mettez dans le saladier ou le cul de poule. Ensuite, fouettez vigoureusement vos œufs à l'aide d'un fouet afin de mélanger les jaunes et les blancs. Versez ensuite le lait. Le lait va permettre d'assouplir les œufs. Cela apportera de l'onctuosité. C'est l'idéal si vous aimez les omelettes baveuses. Vous pouvez tout à fait remplacer le lait par de la crème liquide, mais c'est plus gras. Dans ce cas, optez pour 50 g de crème liquide. Et puis, chauffez votre poêle avec un petit peu d'huile à feu moyen. Une fois qu'elle est bien chaude, baissez le feu, puis versez-y vos œufs. Attention, ne chauffez jamais votre poêle trop fort, sinon vos œufs risquent de coaguler directement et une croûte va se former. Remuez votre mélange afin d'éviter que l'omelette colle à la poêle. Arrêtez de remuer lorsque les œufs ont une consistance comme des œufs brouillés. Roulez-la ensuite sur elle-même et déposez-la dans une assiette en la pliant en deux. Et voilà, c'est l'heure de passer à table. Bon appétit. Voilà maintenant la question qu'inévitablement on se pose. Si nous sommes plusieurs, combien faut-il d'œufs par personne dans une omelette? Alors, 2 ou 4 œufs par personne? Et si c'est le plat principal, que faire? À mon avis, il faut compter entre 3 et 4 œufs par personne. Si vous avez une grande faim, optez pour 4 œufs par personne et en dessous de 3 œufs, votre omelette risque d'être assez fine, ce qui n'est pas ce que l'on recherche. Accompagnez votre omelette d'une salade verte ou même d'endives et cela vous fera un excellent repas complet. Et bien maintenant, je vais vous proposer d'écouter quelqu'un qui c'est pas d'hier, hein, Fernandel, il y a longtemps qu'il chantait, hein, mais il a une chanson formidable qui s'appelle La Bouillabaisse. Donc on va écouter La Bouillabaisse.
Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher, mais le poisson passe et ricane, y a plus qu'à l'acheter au marché. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Une langouste est nécessaire, de la baudroie et des favouilles, 12 rascasses, un petit Saint-Pierre, huile et safran, ail et fenouil. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah, mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah, mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mains. On invite une belle petite, Marie-Louise ou bien Susan. Ensemble on remue la marmite, en se bécotant tout le long. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Il faut bien attiser la braise, Susan le fit ingénument. C'est ainsi que les Marseillaises éprouvent leur tempérament. Oh, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. On laisse un peu la bouillabaisse pour pétanquer au cabanon. On tire et on fait des prouesses. Quand on revient, il n'y a plus de bouillon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon. Si la bouillabaisse n'est pas bonne, c'est pas que Marius soit pas fort. Croyez-moi, c'est la faute à personne, c'est la faute à ce coquin de sort. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon.
La matinale estivale sur RCN.
Matinale intitulée SLPA et recettes. Les recettes, eh bien, ce sont quelques-unes que nous vous avons proposées au fil de cet été et que nous avons compilées dans cette émission. Et puis SLPA, car elle nous invite à sa kermesse, justement ce dimanche 31 août, de midi à 18h, au refuge d'Amance.
RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet.
Vous avez des bananes trop mûres, alors je vous propose de les utiliser. Incorporez de la banane dans la pâte à gâteau permet d'utiliser des fruits trop mûrs, mais aussi de réaliser des cookies plus sains, mais tout aussi gourmands. La banane est un des fruits préférés des Français. Elle fait presque jeu égal avec la pomme en termes de quantité consommée par an. Prisée de tous ou presque sucrée, consistante et riche en potassium, elle a beaucoup d'atouts pour la fin du repas ou du goûter. Mais elle s'invite aussi de plus en plus dans les pâtisseries. Au-delà des recettes originaires des pays tropicaux, le banana bread en est le meilleur exemple. On trouve désormais ce gâteau moelleux dans de nombreuses pâtisseries et même les grands chefs s'y essayent. Mais on peut aussi incorporer la banane dans bien d'autres recettes de gâteaux, comme les cookies par exemple. Alors cela ne sert pas qu'à parfumer les pâtisseries. La texture de la chair de la banane est en effet partagée, parfait pour s'intégrer à diverses pâtes à gâteaux. Dans certaines recettes, elle peut même remplacer la farine, le beurre, voire les œufs, et permet de réduire la quantité de sucre. Ce sont des avantages que justement les grands chefs ont décidé de mettre à profit. C'est l'occasion d'utiliser les bananes trop mûres dont la peau a noirci. Il est en effet préférable d'utiliser des fruits un peu fatigués car leur chair est plus fondante et se mêle donc mieux aux autres ingrédients. Mais aussi, ce sera bien sucré. Alors je vous propose la recette de cookies sans beurre et super gourmand. Pour 15 à 20 cookies, il vous faudra 2 bananes bien mûres, un œuf, 2 grosses cuillères à café de beurre de cacahuète, 100 g de flocons d'avoine, 60 g de farine, 6 g de levure chimique, une grosse poignée de pépites de chocolat. Vous allez commencer par préchauffer votre four à 180 degrés. Coupez 2 bananes bien mûres en morceaux et écrasez-les à la fourchette dans un cul de poule. Cassez un œuf dedans et ajoutez éventuellement un filet de sirop d'agave si vous appréciez les préparations bien sucrées. Incorporez également 2 grosses cuillères à café de beurre de cacahuète ou un autre beurre d'oléagineux, moins gras et moins calorique que le beurre classique. Mélangez au fouet et incorporez 100 g de flocons d'avoine, 60 g de farine, un demi-sachet de levure chimique. Mélangez une nouvelle fois avant d'ajouter une belle poignée de grosses pépites de chocolat. Étalez une feuille de papier cuisson sur une plaque et répartissez-y la pâte en petits tas. Et passez-les suffisamment pour que les cookies ne se collent pas à la cuisson. Parsemez chaque pièce de quelques pépites supplémentaires. Enfournez pour 15 minutes à 180 degrés jusqu'à ce que les cookies soient bien dorés. À la sortie du four, prépochez de petites touches de beurre de cacahuète sur chaque pièce et c'est prêt.
RCN, la cuisine buissonnière. Christian Saquet.
Alors maintenant, je vais vous parler des bienfaits pour votre santé avec la banane. Parce que ça, on l'ignore, mais franchement, c'est vraiment quelque chose de bien la banane. Les bananes sont faciles à déguster, savoureuses et rassasiantes. En plus de leur goût délicieux, elles regorgent de bienfaits pour la santé. Les bananes sont incontournables dans de nombreux foyers, grâce à leur côté pratique et délicieux. Ce fruit est l'un des préférés des Français. Et on comprend bien pourquoi. Facile à emporter. Il suffit de les éplucher pour pouvoir les déguster, que ce soit à l'école ou au bureau. Elles sont aussi bien utiles dans certaines recettes comme le banana bread ou les pancakes. En plus de leur simplicité et de leur saveur, les bananes offrent de nombreux bienfaits pour la santé. Alors, quels sont les atouts de la banane? Eh bien, la banane donne de l'énergie. Vous l'aurez sans doute constaté, la banane est rassasiante. En cas de fringale, elle peut être salvatrice pour éviter de craquer sur une part de gâteau au chocolat ou une vieille raserie avant le repas. La banane est le fruit des sportifs par excellence. Elle renferme principalement des glucides, 19,7 g au 100 g, dont des glucides complexes, qui ont l'avantage de se diffuser lentement dans l'organisme et apporter ainsi de l'énergie au long cours. Avant un effort, la banane peut donner un petit coup de boost. Bienvenue. Autre atout, elle aide à réduire le risque de crampes en raison de sa teneur en potassium. La banane est aussi riche en vitamines. Ce fruit est très riche en vitamines aux propriétés antioxydantes avérées. Il s'agit principalement des vitamines C et E et de la provitamine A. Rappelons que les antioxydants jouent un rôle précieux contre les radicaux libres, responsables entre autres du vieillissement cellulaire. On y trouve également de la vitamine B12, particulièrement intéressante pour les femmes enceintes. La banane est digeste. La banane est un fruit particulièrement digeste, surtout lorsqu'elle est mûre à point. Elle peut donc être consommée par les personnes un peu fragiles, et notamment les jeunes enfants. La banane est aussi bonne pour le transit. La banane contient des quantités intéressantes de fibres, présentes à hauteur de 2,7%, soit un peu plus que la pomme. Mais contrairement à certaines idées reçues, elle ne constitue pas, Au contraire, elle est conseillée pour réguler le transit intestinal. Certes, les bananes sont bien souvent consommées pour ralentir le transit des personnes, notamment des enfants, souffrant de diarrhée. Mais elles ne constipent pas les personnes qui ont un transit régulier. Voilà qui est dit. Si les bananes ralentissent le transit en cas de diarrhée, c'est en grande partie grâce à leur richesse en pectine. Autre chose, la banane protège les os. La banane est riche en manganèse. Un fruit couvre en moyenne 40% des besoins quotidiens de cet oligo-élément indispensable pour protéger les cellules du stress oxydatif et préserver une ossature solide. La banane est bonne pour le cœur. Haha, on savait pas ça, hein? La banane est un petit concentré de nutriments. Elle apporte en particulier de belles quantités de potassium, 320 mg au 100 g, un minéral bien connu des médecins, pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Consommer des bananes serait donc plutôt conseillé, notamment aux personnes souffrant d'hypertension, qui, rappelons-le, est délétère pour le cœur. Quels sont les bienfaits de la banane le soir? Si vous voulez passer une bonne nuit, n'hésitez pas à mettre la banane au menu du dîner. En effet, elle contient plusieurs substances qui favorisent l'endormissement, à commencer par la vitamine B6, qui agit sur la production de mélatonine. Elle renferme aussi du magnésium, bien connu pour aider à lutter contre le stress. Or, le stress est étroitement lié à l'insomnie. Mais ce n'est pas tout. La banane est riche en potassium et, en carence de ce minéral, peut conduire à un décalage du rythme circadien et favoriser les réveils précoces. Enfin, la banane est également un bon pourvoyeur de tryptophane, un acide aminé qui permet de fabriquer de la sérotonine. Ce neurotransmetteur nous se prépare au sommeil en favorisant la production de mélatonine, également dénommée hormone du soleil. Par contre, quels sont les méfaits de la banane? On a vu que le potassium contenu dans la banane était conseillé aux personnes souffrant d'hypertension. Toutefois, celles souffrant d'insuffisance rénale ont plutôt intérêt à en limiter la consommation, le potassium pouvant, chez elles, mener à des troubles de rythme cardiaque. Autre bémol, la banane fait partie des fruits plus caloriques que la moyenne, puisqu'elle apporte aux alentours de 90 kcal au 100 g, contre 45 par exemple pour l'abricot ou 55 pour la poire. Sachant qu'une banane pèse environ 120 g, son apport énergétique est loin d'être négligeable. On ne peut donc que conseiller de l'alterner avec d'autres fruits si l'on surveille sa ligne.
C'était donc un extrait de l'émission La cuisine buissonnière que vous pouvez retrouver dans son intégralité en podcast sur le www.rcn-radio.org, puisqu'effectivement cette émission hebdomadaire, eh bien ce ne sont juste que quelques extraits des morceaux que j'ai choisis, mais peut-être d'autres morceaux que vous pourrez choisir si vous allez en podcast pour savoir tout ce qui est dit dans ces émissions très très denses par ailleurs. Et bien ça s'imposait, hein, Banana Split de Lio. Allez, bonne dégustation.
Le dessert que sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfant qui n'est qu'un amour de dessert.
un grand merci à Jean-Luc Carr pour cette mise en onde de cette émission SLPA et recettes. Un bel été à lui, il l'a bien mérité. Un bel été à vous. Et puis, à bientôt dans une prochaine matinale. Aussi, un grand merci, bien entendu, à Tati pour l'emprunt de notre générique.